Il est 7h40 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
L'épreuve de force autour de la loi travail n'est pas un épisode inédit dans l'histoire contemporaine de la France. Finalement, ce mouvement social en rappelle un autre, celui intervenu par exemple en décembre 1995. Qu'est-ce qui distingue ces deux conflits sociaux? En quoi décembre 1995 annonce-t-il ou pas mai 2016? Bonjour Marcel Gauchet. Vous êtes philosophe et historien, directeur d'études à l'EHESS et responsable de la rédaction de la revue Le Débat. Et vous écriviez dans la revue Le Débat en 2000 au sujet de décembre 1995. Les grèves et les manifestations de décembre 1995 ont ramené la France à son débat interne, à ses problèmes propres et à ses traditions. Elles ont marqué le retour d'une exception moins entamée qu'on ne l'avait cru et bien décidée à résister à la mondialisation. Elles ont ressuscité le mouvement social et remis l'intellectuel critique sur le pavois. Qu'est-ce qui distingue la crise que nous traversons de celle que la France a traversée en décembre 1995 ?
Il y a des éléments communs, à savoir un climat social de tolérance à l'égard de la protestation qu'avait inauguré 1995. Et c'était le trait le plus frappant à l'époque, et c'est cela essentiellement que j'essayais d'analyser. L'élément distinctif, c'est que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts malgré tout depuis, et que les perspectives de ce mouvement sont beaucoup plus défensives qu'offensives par rapport à ce qu'elles étaient en 1995, où malgré tout, l'utopie sociale, pour dire les choses avec un mot trop grand sans doute, demeurait vivante. L'intellectuel critique était encore une valeur sûre. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui toutes ces choses restent bien vivantes.
Justement, hier, Alain Touraine était l'invité de l'émission « Dimanche et après » d'Olivia Gisbert sur cette antenne. Écoutez-le analyser l'état actuel de la France en pleine mutation.
Vous avez en ce moment un pays qui est en train de sortir avec beaucoup de difficultés de ce qu'on a appelé le monde industriel. Il ne sait pas très bien dans quel autre monde on va entrer. On ne sait pas contre quoi on va se battre. Mais en tout cas, on sait ce qu'on a gagné à l'époque industrielle. Et tout d'un coup, on nous le fout en l'air. Et c'est tout à fait inacceptable. Je dirais qu'il y a une incompréhension de la part du gouvernement, de la part de ceux qui ont pris les décisions. Il y a une incompréhension de l'état d'esprit de ce monde. N'oubliez pas que la France est un pays en désindustrialisation, c'est un pays en chômage, c'est un pays où la France moderne est devenue minoritaire par rapport à l'ensemble de la population. Et on se balade là-dedans comme si c'était des détails techniques.
Le sociologue Alain Touraine au micro d'Olivia Gisbert. Votre opinion sur ce que vient de dire Alain Touraine, Marcel Gauchet?
Le constat me paraît très juste. C'est qu'en effet, la mutation qu'on appelle post-industrielle est ressentie d'une façon très brutale dans un pays où la valeur travail, qui est très ancienne, s'était reconstituée autour des métiers industriels qui sont aujourd'hui sinistrés. Et Alain Touraine a parfaitement raison de souligner combien la technocratie gouvernante est coupée de la sensibilité qui est mobilisée par ces mesures techniques, apparemment. Du point de vue gouvernemental, il s'agit de techniques, d'ajustements juridiques, le contrat de travail, toute chose parfaitement légitime, mais dont l'enjeu n'est pas mesuré. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la récurrence de ces conflits. On ne parle pas de la même chose en haut et en bas. En haut, on parle technique, et en bas, on ressent le changement du monde, et on ressent par la même occasion l'absence de perspective en haut à l'égard de ce changement. On ne nous promet rien, on n'y a aucune perspective d'ensemble qui se dégagent des mesures qui sont prises, qui sont des ajustements micro-légaux, ce qui paraissent avoir aucune prise sur la réalité du mouvement social en cours.
Comment expliquer la situation particulière de la France, si on en juge par les autres pays industrialisés, une situation particulière avec ces crises à répétition autour donc de la question sociale? Finalement, c'est une situation plutôt inédite, Marcel Gauchet.
C'est une situation assez singulière qui tient à une tradition politique particulièrement enracinée et qui tient aussi à un divorce entre l'élite gouvernante et la population qui a ici des racines très profondes réactivées par cette situation d'ajustement à une mondialisation perçue comme extraordinairement destructrice.
Une mondialisation qui est perçue comme destructrice, mais aussi un modèle social auquel les Français sont particulièrement attachés, comme si ce modèle social était en quelque sorte quelque chose qu'il fallait réussir à défendre envers et contre tout.
Oui, ce qui est très frappant dans ces mouvements, c'est leur caractère défensif. Et je dirais défaitiste. On part non pas sur la base d'un projet contre un projet, qui serait une chose parfaitement légitime, mais sur la base d'un empêchement d'agir de la part des gouvernants. Ce qui est très frappant, c'était déjà vrai en 1995, et ça le reste, c'est le mot d'ordre de la résistance. De la résistance à un changement, en fait, auquel on se résigne ultimement, puisqu'on n'a pas de contre-projet à mettre en face. Là, je crois qu'on est dans le climat très particulier d'une société qui est arc-boutée dans une identité qu'elle ne veut pas perdre, dans un modèle, le mot étant d'un vague qui facilite les choses, parce qu'il est très difficile à définir, sur lequel elle campe avec la conviction que ça ne peut être que pire. C'est ça qui est le plus désespérant dans ces mouvements, c'est que, dans toute façon, le mouvement va dans le sens de l'aggravation de ce qui existe déjà. On n'est plus dans la lutte sociale, qui était la lutte pour un avenir meilleur. On est dans la résistance à un avenir qui ne peut être que pire que le présent que nous vivons.
En décembre 1995, on trouvait peut-être la matrice originelle de ces conflits sociaux, mais en décembre 1995, il y avait un personnage qui symbolisait en quelque sorte l'intellectuel critique, c'était Pierre Bourdieu, écoutez-le, invité de l'émission Arrêt sur image, c'était en 1996.
Il est vrai que j'ai pris position sur le sens de ces manifestations dans un lieu très déterminé, à la gare de Lyon, devant des gens qui étaient sortis d'une manifestation. Et j'ai essayé de dire, tout en disant que je n'étais pas détenteur de la vérité absolue sur ce mouvement, j'ai essayé de dire ce qui m'apparaissait être le sens de ce mouvement. Pour une raison simple, c'est que je savais que d'autres le diraient, qui étaient encore plus mal placés que moi. Et évidemment, ils n'ont pas manqué de le faire. Donc je pense que quand on est dans ma position, c'est-à-dire quand on s'efforce de travailler à longueur de temps pour comprendre le monde social, on est devant une difficulté permanente que le peu de savoir du monde social qu'on peut découvrir, on est très mal placé pour le communiquer.
La voix de Pierre Bourdieu, qui a pris la place de Pierre Bourdieu, Marcel Gouchet?
À ma connaissance, personne. Ça se saurait, je veux dire, c'est le genre de personnage qui se voit sur la scène publique. Je crois que ce type d'intellectuel critique, comme vous le disiez, en fait s'effrite avec l'histoire que nous vivons. Il a de moins en moins de relief, de moins en moins d'autorité, de moins en moins d'audience. Il existe faiblement, on sait bien qu'il y a des figures qui sont présentes à l'arrière-plan du mouvement contre la loi travail, mais elles n'ont pas le même rayonnement à l'évidence que celui que pouvait avoir Pierre Bourdieu dans son temps.
C'est ça qui est particulier, c'est que ce mouvement est évidemment fortement politisé. Néanmoins, en 1995, il y avait eu des prodromes sur le plan intellectuel, je pense à Spectre de Marx, de Derrida, qui avait été publié en 1993. Il y avait La misère du monde de Pierre Bourdieu en 1993 également. Et aujourd'hui, on voit finalement qu'on a une contestation qui n'est pas en quelque sorte précédée par des ouvrages ou par une élaboration théorique précise.
Je crois que la situation est complètement différente sur ce point. C'est que quand tout ce qui peut se chercher aujourd'hui au titre de la critique de la société existante, qui mérite qu'on la critique, c'est pas douteux, est dans une situation de gestation. Au fond, prenez Spectre de Marx, le titre dit tout, ou La misère du monde, ce sont des réadaptations de schémas intellectuels hérité et auquel il s'agissait de donner une nouvelle vitalité dans un contexte différent, mais avec une continuité fondamentale. Le monde a changé complètement et il faut inventer tout à fait autre chose, y compris en matière de critique des aspects les plus contestables de la société où nous vivons. Je crois que c'est ça la différence de contexte fondamentale. C'est que une critique sociale est à réinventer. Elle n'existe qu'à l'état embryonnaire aujourd'hui par rapport à ce que nous connaissons, parce que le deuil est fait de Marx ou du type de sociologie sur lequel Pierre Bourdieu pouvait construire sa critique.
Mais pour autant, la sociologie concurrente, ou en tout cas une vision concurrente de la société, qui serait donc une vision néolibérale, on ne peut pas dire qu'elle tienne le haut du pavé.
Non. C'est l'inconnu de la situation. Du côté néolibéral, je dirais, là, la créature a totalement échappé à ses créateurs. Les néolibéraux ne savent pas le monde qu'ils ont fabriqué et ils ont eux-mêmes beaucoup de peine à s'y retrouver. Ce qui fait qu'ils sont, si je puis dire, dans la discrétion obligée par rapport à un monde vis-à-vis duquel ils connaissent les prémices, mais ils ne connaissent pas les résultats qui leur échappent tout autant qu'à ceux qui les contestent.
Mais alors, ça veut dire que le libéralisme a triomphé, la théorie a triomphé en quelque sorte sans théoricien ?
Les prémices ont triomphé. C'est toujours le problème du libéralisme. Le libéralisme, c'est une axiomatique très simple, à la base, qui est arrivée même, je crois, dans le monde où nous sommes à une simplification radicale. On peut ramener tout ça à un axiome élémentaire. Il n'y a que des individus. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour les mettre ensemble ? Bon, c'est là où le bât blesse du point de vue de l'intelligibilité des conséquences. C'est que une fois qu'on a ces prémices, reste l'intelligibilité du monde social qui se fabrique en fonction d'elle. Et c'est là que nous sommes tous dans le brouillard le plus épais, dans la situation d'aujourd'hui, et le sentiment de confusion est celui qui domine, y compris l'intelligence dite critique.
Et si l'on essaye de résumer en une phrase la polémique qui avait eu lieu en décembre 1993, celle-ci consistait à dire, c'est Pierre Bourdieu qui le disait à l'époque, Marcel Gauchet, que les intellectuels libéraux coupables en quelque sorte d'indulgence à l'égard du libéralisme considéraient que la grève n'était pas rationnelle. On se souvient par exemple que Pierre Bourdieu avait été très critique contre le philosophe Paul Ricoeur qui avait dit cela à l'époque. La rationalité de la grève, le fait en quelque sorte de défendre les raisons, la logique d'un mouvement social aussi dur soit-il, qu'en pensez-vous ?
Oui, alors il s'agissait moins dans le cas de libéraux que de réformistes. De réformistes sociaux. Paul Ricoeur peut difficilement passer pour le rangon du néolibéralisme. C'était en fait, à l'arrière-fond, absolument classique, la scission héritée, révolutionnaire contre réformiste. Mais c'est ça qui n'est plus là. Il n'y a plus que des réformistes au sens où personne n'a plus de projet révolutionnaire à faire valoir. Donc, ça change complètement la donne. Ce qui a disparu, c'est en fait l'imagination d'une société future totalement différente de celle dans laquelle nous vivrions. Nous sommes dans celle-là et nous nous débattons tous avec des nuances considérables, mais sur la base de cette même absence de ce que serait une alternative de type révolutionnaire.
Qu'est-ce qui peut advenir, du coup, dans une société qui se débat pour préserver en quelque sorte une situation sans alternative véritable ?
Il se passe ce que nous voyons, c'est-à-dire un climat de désespérance collective ou de dépression selon les humeurs personnelles. En fait, il n'y a même pas... Réformisme ne veut même plus dire grand-chose par rapport à ce qu'était la tradition du réformisme. Le réformisme, c'était une méthode pour, là aussi, aller vers le mieux. Là, il s'agit de s'adapter à une contrainte extérieure. La question n'est que celle-là. Alors après, il y a des nuances dans la manière de réaliser cette adaptation, de façon plus ou moins vindicative, de façon plus ou moins rapide, de façon plus ou moins équilibrée socialement. Mais c'est une autre configuration intellectuelle. Il s'agit de... Nous subissons et sans projet. Donc, comment gérons-nous les uns et les autres cette contrainte? Ça se résume à ça.
On tentera de répondre à cette question avec vous, Marcel Gauchet, à 8h15. Vous revenez sur ce thème dans votre livre « Comprendre le malheur français », un livre d'entretien avec Éric Conan et François Azouvi. On parlera de l'état de la droite et de l'état de la gauche. Vous étiez très critique à ce sujet lorsque vous analysiez décembre 1995. Et puis, on verra ce que deviennent les disciples des uns et des autres, puisque le disciple de Paul Ricoeur, c'est Emmanuel Macron. Et après tout, on en parle, vous disiez tout à l'heure, qu'il n'était pas...
Emmanuel Macron n'est pas tout à fait décanté.
On en parlera tout à l'heure.